Média. Podcast.
C'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve sur Média pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Média 1, Amna, l'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, nous parlerons littérature avec une des figures phares de la littérature africaine, Boubacar Boris Diop, qui reviendra avec nous et bien sûr l'état de la scène littéraire africaine actuelle, mais également sur et bien sous son tout dernier roman, notamment traduit en Wolof, et de l'importance et bien du Wolof actuellement et bien dans la littérature africaine. Et ça sera donc notre entretien avec Boubacar Boris Diop. Sinon, nous parlerons également cinéma avec Chi Moni de Angela Wanjiku Wamai, qui transcende avec beaucoup de talent et bien certains tabous de toute une société africaine à travers le personnage d'un jeune professeur d'anglais sortant de prison et qui doit et bien tout simplement réintégrer la société. Il est question de rédemption, mais également et bien des traumatismes liés aux abus sexuels, des abus sexuels jamais reconnus par la communauté auquel appartient notre personnage. Et ça sera donc notre coup de cœur cinéma baptisé Chimoni. Sinon, nous parlerons également artisanat, nous parlerons mode avec Rachida Hamzal. Elle est amazir, elle en a fait eh bien, le pilier de sa vocation, une vocation donc consacrée à la confection de maroquinerie. Et ça sera donc notre petit coup de cœur de l'Afrique en culture. Et comme promis tout à l'heure, place à la littérature africaine avec un des plus grands noms de notre continent, monsieur Boris Boubacar Diop, qui nous parle eh bien, de la littérature actuelle sur notre continent, de son essor, mais également eh bien, de la place de nos dialectes, notamment le Wolof. Et en effet, Boubacar Boris Diop tient particulièrement à ce que ses œuvres soient traduites en Wolof, notamment le tombeau pour Kinigadjo, une ode à la culture africaine. On écoute tout de suite Boubacar Boris Diop.
Quand on commence à écrire, on ne se dit pas « Oh, je vais essayer de résoudre les problèmes de ma société et, ou encore moins ceux de l'humanité. » Je pense qu'on est d'abord influencé par ce qu'on a lu. J'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, Victor Hugo par exemple, hein, « Les Misérables ». Et donc, on voit la capacité de la littérature à se placer du côté des pauvres, du côté des opprimés. Et puis, on a un parcours, voilà. Moi, j'ai eu un parcours politique. Je dirais d'ailleurs plutôt un parcours militant, intéressé par les questions qui interpellent le continent. Ma génération, nous étions tous plus ou moins marxistes. La philosophie marxiste a eu un impact très fort sur nous. Et voilà, et quand on écrit des romans, de façon très spontanée, on prend le parti de ceux qui sont opprimés, le parti des faibles. On a tendance, ça peut être une grave erreur d'ailleurs, on a tendance à prendre sa plume pour une épée et à se battre pour aider la veuve et l'orphelin.
Oui, je voudrais également savoir, puisque voilà, vous parlez de votre génération qui a été primordiale hein, dans l'essor de la littérature africaine à travers le monde, et on voit aujourd'hui eh bien, toutes ces nouvelles plumes qui émergent de notre continent, notamment à l'étranger. Quel regard vous portez-vous sur ces nouveaux écrivains? Qu'est-ce qui vous touche? Et quelle est la différence peut-être entre votre génération et cette nouvelle?
La différence, par exemple, je vais remonter plus haut que ma génération. Hein. Si vous prenez le premier roman jamais écrit en langue française par un Sénégalais, par quelqu'un d'Afrique subsaharienne, Force Bonté, vous le comparez au tout dernier roman publié par la nouvelle génération, mais vous vous rendez compte que vraiment, ces genres de textes sont à des années-lumière. Je pense que même en qualité, hein, c'est des textes beaucoup plus forts. Voilà. Cela dit, les auteurs de ma génération et ceux et les nouvelles plumes dont vous parlez, il y a de grandes différences, mais nous restons dans le même univers d'écriture. Il est vrai que la plupart de ces auteurs sont installés à l'étranger, en particulier d'ailleurs en France. Hein. Les différences ne sont pas si importantes que cela. Bon, moi, je suis au Sénégal, hein, mais en général, les auteurs dont on parle le plus se trouvent hors du continent. C'est la même chose pour le football. Hein, voilà, c'est une tendance de notre époque. Je crois que c'est très important. L'Afrique est le seul continent où les auteurs créent leurs romans, leurs pièces de théâtre dans des langues, l'anglais, le portugais, le français, que le compatriote ne peut pas comprendre. Alors, pour qui écrivent-ils vraiment? Et nous pensons, en tant que d'ailleurs disciples de Cheikh Anta Diop, nous pensons bon, qu'il est temps que la littérature dans les langues africaines soit prise au sérieux, soit encouragée. Ngugi, il écrit en Kikuyu, il est du Kenya. C'est l'un des auteurs contemporains les plus connus, Ngugi Wa Thiong'o. Moi-même, je suis sénégalais, j'écris en Wolof. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la littérature dans les langues du Sénégal, il s'agisse du Sérère, du Poulard, du Wolof, est tout aussi importante que la littérature en langue française. Le deuxième roman que j'ai écrit en Wolof, je l'ai traduit en français chez mon éditeur habituel, Philippe Ray, à Paris, et c'est intitulé « En tombeau pour Kitegagu ». D'ailleurs, il est très revisité par la critique, on en parle énormément.
Et on sera au rendez-vous, bien sûr, à l'heure de la publication et dès qu'on pourra, bien sûr, le découvrir. Merci en tout cas, Monsieur Diop, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir que de vous avoir.
Je vous en prie.
Merci, voilà, beaucoup. Merci. Et comme promis, tout de suite, place à notre coup de cœur ciné de cette semaine. Et je fais allusion à Shimoni, signé par la Kenyan Angela Wanjiku Waman. Donc un film audacieux et rare qui nous parle eh bien, des conséquences du cataclysme des abus sexuels commis sur un garçon et le silence étouffant d'une société qui est en total déni. C'est une histoire rarement racontée au cinéma, un récit précieux donc signé par la Kenyane Angela Wanjiku Wamai. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
Geoffrey, you survived 7 years of prison. You will survive freedom.
Huyo kijana amebadilika.
Ungetuliza kwanza kama tunataka muragani hapa.
I hate you so much.
But men don't talk about such things, right?
So what should a man do, huh?
Shimoni, primé par l'étalon de bronze au FESPACO, est sorti le mercredi 22 janvier en salle. Shimoni commence avec l'histoire d'un homme qui sort de prison. Est-ce une histoire de culpabilité? Oui, c'est de ça que nous parle la réalisatrice. C'est avant tout une histoire de culpabilité, une histoire qui traite eh bien, de la culpabilité de la victime et de la culpabilité de l'auteur. Geoffrey, donc, qui sort de la prison, est à la fois coupable et victime et il essaye de s'en sortir, de naviguer entre ces deux formes de culpabilité. Mais c'est aussi un film sur la honte, le déni, le deuil, la perte, la paternité et beaucoup d'autres traumatismes. Il fallait beaucoup de temps pour le faire. Voilà ce que dit donc Angela Wamai. C'est un voyage de 8 ans. Souvent, je me disais, je n'arriverai pas, je vais arrêter, mais j'étais constamment confrontée à ces traumatismes, au chagrin, à la honte que cela inspiré. ces fameux récits des personnes à qui je parlais ou les documentaires que je trouvais sur Internet. Il faut dire que la réalisatrice kényane Angela Wajiku-Wamai en a fait un véritable combat, 8 ans pour faire ce film. Après 7 ans de prison, Geoffrey, cet ancien professeur d'anglais, n'est pas accueilli par sa famille mais par un prêtre dans un village où il a grandi. Il faut dire que au Kenya, les villages sont une véritable communauté. Il y a des racines religieuses très fortes dans ces villages où la communauté se rassemble autour d'une croyance religieuse. Et c'est là que Geoffrey va essayer de trouver refuge. Et sans dévoiler l'histoire de Chimoni, il s'agit d'une histoire d'abus sexuel, de traumatisme, de pardon, mais surtout de rédemption. En effet, Geoffrey prononce cette phrase très puissante: les hommes ne parlent pas de ces choses-là. Ce n'est donc pas une coïncidence si ce n'est pas un homme qui raconte ces histoires, mais une femme, la réalisatrice. Donc Angela Wajiku-Wamai, des images, des mots et surtout beaucoup de silence. Chimoni, un film à voir d'urgence. Et comme promis, tout de suite, dans l'Afrique en culture, nous recevons Rachida Amazal, qui est une créatrice franco-marocaine qui est d'origine amazigh et qui a décidé de donner à sa culture originelle une toute autre ampleur à travers la mode. Formée dans une des plus grandes maisons de couture parisienne, elle découvre tout simplement ce lien qui la relie avec l'art amazigh en dessinant des mandalas thérapeutique, une véritable révélation pour Rachida Amazal, qui découvre dans ses motifs issus de son héritage toute la passion qui vont la mener à un voyage initiatique dans le Haut Atlas marocain sur les traces de son arrière-grand-mère, une tisseuse guérisseuse, artisane d'art énergéticienne. Elle voit chaque création comme une œuvre holistique où l'art, la nature et l'humain s'harmonisent. On l'écoute tout de suite.
L'idée a germé durant mon expérience dans une des grandes maisons de couture parisienne. À l'époque, je dessinais des mandalas comme une forme de thérapie personnelle. Et puis, pour me recentrer, me reconnecter à moi-même. Et un jour, je me suis aperçue que ces motifs ressemblaient étrangement beaucoup à ceux de l'art amazigh. Comme s'il venait de mes racines profondes sans que je m'en rende compte. Ce fut, j'avoue, un moment très marquant. Cette découverte m'a poussée à partir en voyage dans le Haut Atlas marocain sur les traces de mon arrière-grand-mère, une femme inspirante, visionnaire, tisseuse et guérisseuse. Là-bas, j'ai découvert non seulement un héritage culturel fascinant, mais aussi un véritable appel à célébrer cet art dans mes créations. En tant qu'artisane d'art, j'ai voulu surtout une marque alignée avec mes valeurs profondes, notamment la durabilité, l'authenticité et le respect de la nature. C'est ainsi qu'est née l'idée d'une marque, la marque Amzara, qui mêle tradition et innovation et qui raconte une histoire. Celle de la culture amazigh et de son lien sacré avec la nature. Je dirais un lien entre naturalité et amazirité.
Et justement, Rachida, qu'est-ce qui vous inspire le plus dans la culture amazigh qui est véritable pilier dans vos créations ?
Ce qui m'inspire le plus dans la culture amazigh, je dirais, c'est sa vision holistique du monde. Tout y est interconnecté. L'humain, la nature et les énergies. Cette approche résonne avec mon parcours d'énergéticienne et je l'intègre pleinement dans mes créations. Par exemple, j'utilise des motifs comme la spirale d'or, vous savez, cette spirale issue de la géométrie sacrée, ce symbole que l'on retrouve partout dans la nature, des coquillages jusqu'aux galaxies. Elle incarne l'harmonie et l'équilibre, qui sont pour moi des valeurs fondamentales. Toute ma marque est pensée en lien avec la nature, tant dans le choix des matériaux que dans les messages qu'elle véhicule. Je privilégie des matières respectueuses de l'environnement, comme le liège biosourcé ou des fibres végétales peu gourmandes en eau, et ces choix traduisent mon engagement pour une mode durable et éthique. Il y a une citation qui m'a beaucoup marquée et qui me guide dans mes démarches. Cette citation, celle d'Albert Einstein, qui disait « Regardez profondément dans la nature et alors vous comprendrez tout beaucoup mieux. » En fait, mes créations, elles racontent une histoire universelle, celle de nos racines, de notre lien avec le vivant et de la nécessité de préserver cet équilibre. À travers elles, je veux inviter chacun à ralentir, à se recentrer et à consommer de manière plus consciente.
Et qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir, pour votre marque? Quels seraient vos souhaits? Comment vous voyez dans quelques années?
Eh bien, mon souhait le plus cher est qu'elle devienne une référence en matière de mode éthique et culturelle en alliant innovation et respect des traditions. J'aimerais vraiment qu'elle soit reconnue pour ses engagements environnementaux, comme l'utilisation de matériaux alternatifs au cuir animal et peu gourmands en eau, et pour la valorisation du savoir-faire artisanal. Par exemple, j'ai choisi le liège en matériaux biosourcés durables, qui a une longue histoire d'utilisation au Maroc, mais qui reste encore sous-exploité dans ce domaine. Je travaille aussi avec des fibres végétales et des techniques artisanales ancestrales. Cela se reflète dans ma première collection, Amen, qui signifie eau en amazigh. Et je dirais c'est une ode à cet élément vital où chaque pièce sensibilise à la préservation de nos ressources naturelles. Je souhaite également développer des partenariats et collaborations, que ce soit pour des expositions ou des points de vente à travers le Maroc, mais aussi à l'international. Actuellement, je travaille avec des artisans du Haut Atlas sur de nouveaux modèles de maroquinerie et de bijoux, mêlant tradition et innovation. Et cette partie me tient particulièrement à cœur. J'y mets toute mon énergie pour pouvoir vraiment développer cette collaboration. En somme, mon ambition est de créer des pièces qui ne sont pas de simples produits, mais des œuvres porteuses de sens. Je veux qu'elles racontent une histoire, qu'elles célèbrent la richesse de l'héritage amazigh, tout en prouvant qu'il est possible de consommer de manière responsable et inspirante. Je dirais, il suffit de le conscientiser, de le désirer et de le mettre en action.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir que de vous recevoir, de parler de vos créations qui, comme vous le dites, ont un esprit à part entière et qui ne sont pas simplement des accessoires de mode, mais de véritables créations. Merci encore, Rachida Hamzal, d'avoir été avec nous. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, je vous propose tout de suite de parler du dernier livre de Farine Dao, baptisé « Le dernier des arts », où il mêle l'intime, le politique et l'universel. Voilà donc le premier roman de Farine Dao publié aux éditions Présence Africaine. Et comme il le dit, la politique est une affaire de tripes et de cœur. Voilà donc les mots du narrateur du tout dernier roman donc de Farine Dao. Et il nous parle d'un candidat cérébral au port du pouvoir d'un état imaginaire, qui n'est pas, sans nous rappeler, le continent africain. Il faut dire que le propos met en relief ce récit d'une aventure d'un homme pris dans un destin qui devient avant tout une intrigue nouée avec beaucoup de talent par Farine Dao, qui nous régale avec son dernier roman baptisé « Le dernier des arts », où il est question de pouvoir. Avant tout, l'auteur soulève une réflexion sur la politique et ses implications. Il nous pose également des questions philosophiques et existentielles. Pourquoi la politique est-elle comparée à un art? Voilà donc la trame principale du dernier roman et premier livre de Farine Dao. On arrive à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous et on se quitte en beauté en musique avec Sarah Ismaël. Oui, bien, un très joli morceau d'inspiration amazigh. Énorme coup de cœur pour cette petite prouesse musicale. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que l'Afrique en culture, c'est à découvrir en avant-première, toujours toujours sur Média Podcast. Très bonne écoute à tous et très bonne suite des programmes sur Média.
يشابوا الوضب وتشاشيت روح سيدي.